RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Mais j'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
On va vivre, ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus dans l'after. C'est parti pour deux heures. C'est parti pour deux heures de bonheur. Au sommaire de cet after, les infos du jour pour débuter. Il sera question de droit télé également aujourd'hui avec un spécialiste de la question, Pierre Maes, et son bouquin Le business des droits TV dans le foot, enquête sur une bulle explosive. Et puis à partir de 23h, on sera avec Pierre Gauthier, coach mental. On va parler de préparation mentale donc avec Pierre Gauthier, savoir si le football met toujours de côté cette pratique, on va dire. Avec nous ce soir donc, Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Salut les amis.
Comment va Daniel?
Très bien.
Comment va Jérôme Bretagne?
Bonsoir à tous.
Tout de cuir vécu.
Ouais. Écoute, ça change un petit peu.
Rock and roll. Pour Dick Rivers.
Du printemps, on a cru que c'était l'été ce week-end.
Il avait rangé les manteaux, il avait gardé un mi-saison.
C'est plus comment ça vit.
La mi-saison, c'était le cuir.
Ouais, là, c'est.
En mi-saison, là.
Un petit truc de printemps.
Il nous vient de Bruxelles, de Belgique. Il s'appelle Pierre Maes, alors qui est consultant en droit télé, qui a travaillé longtemps d'ailleurs sur une chaîne cryptée en Belgique. Bonsoir Pierre, merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà, Pierre Maes qui nous vient avec son livre Le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive aux éditions FIP, FIP, c'est ça?
Exactement.
Voilà. Ça a une signification d'ailleurs, je crois, non?
C'est pas clair.
Ah ouais?
Non, même pour moi, c'est pas clair.
C'est-à-dire?
On a essayé de m'expliquer, mais non, c'est pas clair.
C'est du teasing, ça donne envie de le lire.
Hein. Ah ouais.
Ça commence bien. On reviendra tout à l'heure sur ce bouquet, on parlera droit télé dans quelques instants. Vous donnez quelques résultats également. Sachez que Séville, tout à l'heure, s'est imposé 5-0 face au Rayo Vallecano, affiche de la 34e journée de Liga. Retafe Real Madrid, ça joue en ce moment même, il y a toujours 0-0. Et puis ça joue également en Italie, entre l'Atalanta et la Fiorentina. Demi-finale retour de la Coupe d'Italie, il y avait eu 3 partout hein, au match aller. On sera avec Fred Hermel d'ailleurs tout à l'heure.
Quel but!
Gagnez maintenant vos places pour la finale de la Coupe de France de football. Rennes PSG. Envoyez foot par SMS au 732-16.
Vous l'aurez compris, c'est déjà lancé. On vous fait gagner des places
dans l'émission. Hein.
Ça tombe tôt.
Je pense que demain ce sera avant l'émission.
Ouais, mais on s'est fait la
pendant le journal. On n'a pas à peine commencé.
C'est Jamila qui va être coupé par Jeannot.
Macron va être coupé. Ouais, mais en même temps, il y a des priorités dans la vie.
Non,
mon gars.
En même temps, Jeannot qui coupe les gens, ça arrive tout le temps. Quoi.
Oh non.
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 Ah non.
Oh non. En tout cas, RMC vous offre vos places pour la finale de la Coupe de France samedi. Si vous voulez supporter le Stade Rennais ou le Paris Saint-Germain, vous envoyez foot au 732-16. Voilà, foot au 732-16. Et il y aura un autre signal qui tombera au cours de l'émission. Pareil, vous aurez 20 minutes pour gagner vos places et pour envoyer foot au 732-16. Tiens, on vous lance également un appel supporter de l'OM. Il y a 5 places à gagner pour aller voir dimanche le match entre Marseille et Nantes. Voilà, dimanche à 21h. Donc, vous nous appelez si vous voulez gagner des places pour aller voir ce match. On débute par les infos du jour, les gars. On va débuter par Jean-Michel Aulas, qui s'est exprimé hier sur la possibilité Laurent Blanc pour la saison prochaine. C'est en marge du 13e titre de suite remporté par l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Le président lyonnais a déclaré, je cite, « Laurent Blanc fait partie des entraîneurs qui peuvent m'intéresser. J'ai dit que je souhaitais engager quelqu'un qui pourrait nous permettre d'avoir certaines ambitions et que je souhaitais engager un coach parlant français ou anglais. Est-il Aulas compatible? Oui, Laurent Blanc est compatible avec moi et avec l'Olympique Lyonnais, mais c'est aussi le cas pour José Mourinho et pour d'autres. » Voilà ce qu'a déclaré hier soir Jean-Michel Aulas. Ça ne vous inspire pas, visiblement.
Si, c'est un pas de plus par rapport à ce qu'on disait hier. Hier, ça semblait inéluctable. Cette rencontre, vraiment, parce que de toute façon, comme j'ai beaucoup dit, il y a personne d'autre qui rentre dans les critères d'Aulas. Donc forcément,
Il y en a beaucoup, blanc. Par rapport à ce qu'il dit.
Non, qui parle français.
Ou anglais,
français,
Il a dit ou anglais hier, déjà. Oh. Il a ouvert déjà un petit peu plus.
Donc, effectivement, alors dans ce cas-là, ça devient tout le monde.
Oui.
Mais non, on a bien compris qu'à chaque fois, ce qu'il met dans la deuxième partie de la phrase.
Après, peut-être que Laurent Blanc, il parle anglais.
C'est
pour noyer le poisson.
Voilà, c'est superflu. Donc, le pas de plus aujourd'hui, c'est de dire que Laurent Blanc rentre dans ses critères. Merci, on le savait déjà. Mais donc, ça confirme. C'est bien. Voilà.
Alors, mais avec qui? Moi, c'est ça le plus intéressant. Laurent Blanc, avec qui?
Toi, tu dis Gasset viendra pas forcément.
Non, mais parce que Laurent Blanc, on le connaît tous. Il a fait des très bonnes choses au Paris Saint-Germain, mais il faut absolument qu'il ait quelqu'un.
Ça va, ses entraînements. Il va le trouver son adjoint pour mettre les plots, c'est bon. Et pour faire l'équipe, je veux dire.
Ouais, d'accord, ouais, bah ça
parce
commence à faire beaucoup,
beaucoup
quand même.
Plus que ça quand même.
Oui, mais c'est pour ça. Mais je le dis plus, je l'ai tellement dit que.
Alors Olas a aussi déclaré, la dernière fois que j'ai rencontré Laurent Blanc, c'était en Russie à l'occasion de la finale de la Coupe du monde. J'ai beaucoup de respect pour lui. Vous me demandez si l'OL est prêt à faire des efforts financiers pour faire venir un grand entraîneur. Je crois avoir répondu à votre question. Lyon est un club très bien structuré qui a les moyens économiques de ses ambitions. Voilà ce qu'a déclaré Jean-Michel Olas.
Et Laurent Blanc, il en fait pas une question d'oseille, j'espère.
Et non, pourquoi il en ferait pas une question d'oseille.
Bah, je sais pas, dire t'es pas sûr.
Ah oui, tu veux dire c'est plus pour lui le critère numéro un.
Bah, oui, ça me paraît logique.
L'indemnité qu'il a pris après le PSG.
Non, mais ça encore, il a. Non. Attends.
Bon bah alors
non.
Quoi alors.
Ben bah, parce que ça fait un bout de temps qu'il entraîne plus.
Il a besoin de bosser.
Bah oui, mais
surtout il a zéro demande.
Bah, donc ça fait un bout de temps qu'il entraîne plus. Donc aujourd'hui, il met en priorité le sportif. Du moins, j'espère juste, c'est même pas une question d'argent quoi.
Après, pour les Lyonnais qui attendent un vrai changement, ils vont prendre la nouvelle. Comme une bonne nouvelle, parce que ils vont sortir de Genesio dont ils ne voulaient plus. Maintenant, on leur dit Laurent Blanc vient. Laurent Blanc, c'est 3 ans au PSG qui se sont pas bien terminés, où il y a eu des titres, mais n'importe quel entraîneur au PSG de toute façon a maintenant des titres. Donc, il faut remonter à sa première expérience. Parce que finalement, il n'y a pas une expérience délirante, Blanc. Donc, il faut remonter à cette année magique à Bordeaux. Derrière, en équipe de France,
c'est pas facile ce qu'il a fait en équipe de France.
Ça c'est pas.
Il reprenait à zéro quand même, Daniel.
Ouais, mais ça s'est pas super bien passé dans ses rapports avec avec la fédération. On lui a reproché des choses que à peu près tout le temps on lui a reproché dans sa vie professionnelle. Il s'en va en 2012, donc après les années PSG. Est-ce que c'est un CV hyper emballant pour le supporter lyonnais qui voit partir à Genesio? J'ai l'impression que d'abord il y a la joie de voir partir à Genesio parce qu'il ne le voulait plus. Mais est-ce que c'est méga satisfaisant de voir arriver Laurent Blanc? Je sais pas. Je sais pas comment les supporters lyonnais vont réagir à ça. Est-ce qu'ils vont se satisfaire d'abord du changement sans regarder exactement le nom?
Je pense que déjà
de la personne qui vient. Et puis il y a surtout l'impression que ça ne pouvait être que lui et que donc en gros, Lyon ne s'est même pas cassé la tête à essayer de trouver ailleurs, que de toute façon les portes de l'étranger ça reste fermé pour toujours parce que Olas veut garder la main et qu'avec Blanc il va quand même y arriver. Après bon, c'est quand même un entraîneur qui avait zéro demande.
Non mais
s'il est fort, s'il est ceci cela, s'il intéresse et tout. Depuis le temps, il aura quand même eu des demandes. Ça fait 3 ans qu'il est parti du PSG. Personne n'en a voulu. Ah. Parce que les soi-disant Manchester s'est informé, la Roma...
Il a dû refuser quelques-unes. Ah. Écoute, moi je l'écoute, c'est lui qui l'a dit. Donc moi,
la première année, il dit ok, je me repose, ça a été dur le PSG et tout. La deuxième, la troisième année. Et là, s'il y avait un club genre comme Manchester United et tout, il irait à Lyon. Honnêtement.
En gros,
aux Lyonnais, on leur dit donc Genesio s'en va. Bon bah ça c'est votre premier cadeau si vous en vouliez plus. Donc maintenant, on prend un mec que personne ne veut, mais qui a un nom du football français qu'un nom du banc.
Qui a apporté.
C'est un nom du football français.
Il faut quand même qu'on se souvienne. Moi aussi, j'ai été assez critique avec Laurent Blanc quand il était au PSG, surtout la dernière année parce que. Dans le management, il y avait plein de choses qui dérangeaient à l'intérieur du club, mais ce que tu peux pas lui reprocher, et c'est pour ça que les supporters lyonnais peut-être peuvent être excités à l'idée d'avoir Laurent Blanc sur le banc, c'est qu'il a apporté un style au PSG. Ce style-là, on l'a senti à Bordeaux quand il l'avait.
Ouais, mais alors, bon, ça s'est mal goûté. Aujourd'hui.
Ouais, mais il a un style quand même, Daniel. Tu peux pas lui reprocher.
Si c'est vraiment le style PSG des deux premières années avant, c'est même plus un style qui est très couru aujourd'hui.
Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Je viens de l'extérieur, je suis de Belgique.
Tu viens de Belgique, Pierre.
Voilà. Mais je suis un peu étonné par tout ce que vous dites et surtout par ce que toi tu dis, Daniel. Tu dis personne n'en voulait de Laurent Blanc. Pourquoi Pourquoi personne n'en veut?
Daniel dit personne, il veut dire pas les top clubs.
J'ai bien compris.
C'est une question à laquelle tu as la réponse ou c'est une vraie question?
Non, c'est une vraie question de. Je suis étonné d'entendre ça en fait.
Ah, mais j'aurais presque envie de te dire qu'il faut que t'ailles demander au club aussi bien. En France, à la limite, je peux comprendre parce qu'il veut jouer à la Ligue des Champions, donc il va pas aller entraîner Dijon ou bien
quand tu viens de quitter le PSG,
c'est compliqué. Ça, ok. Après, je sais pas moi, il a joué en Italie, il a joué en Angleterre, il a joué en Espagne, le mec est connu, il a un passé de joueur quand même,
D'où mon étonnement en effet, oui.
En fait, c'est parce que on croit que, tu sais, les gens ont tendance à considérer que dans ce genre d'émission, on donne notre avis, mais sans jamais se renseigner ou sans jamais être informé sur ce qui se dit à l'intérieur du milieu. Bah parce qu'à l'intérieur du milieu, il a pas une super cote, quoi.
Ok.
Et parce que si tu discutes avec des gens du foot, des agents, des joueurs, il a pas, Jérôme le sait, il a pas une méga image. Il a pas l'image du bosseur. Il a pas, il a cette image. Alors nous on en joue, on en rigole que c'est l'adjoint qui fait tout. Mais c'est la vérité. Genre on le sait.
Même beaucoup de.
Donc après qu'ils connaissent le foot. Qui soit souvent très intéressant quand il parle, quand le peu d'interviews qu'il donne, aucun problème, il connaît le foot, tout ce que tu veux, ça a été un joueur extraordinaire. Hein. Mais en entraîneur, peu de gens sont venus le chercher. Et quand peu de gens viennent te chercher, c'est pas bon signe, quoi. C'est parce qu'à l'intérieur, dans le milieu, on sait qui tu es.
On va accueillir Michel, les gars, supporter de l'OL qui nous a appelé au 32-16. Salut Michel.
Salut, bonsoir à tous.
Salut Michel.
Comment va Michel?
Bah, ça va super bien. Super bien.
Qu'est-ce qu'il en pense, Michel, des déclats de Jean-Michel Aulas sur Laurent Blanc, là?
Bah, de toute façon, il ne peut pas tenir un discours autre que celui qui tient. Il est dans sa position, il a un club à gérer, et comme on le connaît en très très bon gestionnaire, bah, il fait le discours qu'il faut pour que tout soit assez zen autour de lui, contrairement à la dernière qu'il a fait, enfin la dernière, la grosse cagade qu'il a fait le jour de l'élimination de la demi-finale. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, Laurent Blanc reste un très bon choix pour l'Olympique Lyonnais. Moi, j'étais fan de Genesio, hein. Je suis pas quelqu'un qui le critiquait outre mesure. Comme de toute façon, je suis un entraîneur de comptoir, j'ai pas la science exacte en foot. Donc moi, je pense que les gens qui sont là, bah, ils font le travail comme il faut, ils sont là depuis des années. Donc il y a pas de raison que ça change, surtout que la réussite est là. La réussite à l'échelle française, hein, parce que qu'avec le PSG, c'est compliqué. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que ça reste un bon choix si c'est lui. Après, on me demandait tout à l'heure quels seraient pour moi les entraîneurs idoines pour l'Olympique Lyonnais. J'ai cité trois noms, donc Blanc, Arsène Wenger et Juninho. Mais Juninho, c'est le cœur qui parle. Juninho, c'est celui qui a tenu le vestiaire, c'est celui qui a tenu l'équipe pendant 8 ans.
Juninho, il a jamais été entraîneur, hein, il a pas envie d'être entraîneur, en surtout. Plus, hein.
Bah, il est parti aux États-Unis, il a eu un moment très tendu au Brésil, hein. Ça a été très compliqué pour lui, il a reçu des menaces, etc.
Il a jamais voulu être
entraîneur. C'est un peu mis à part, là, depuis quelques temps.
C'est possible, mais Blanc n'était pas entraîneur lorsqu'il a entraîné Bordeaux. Je pense qu'il a le charisme.
Oui, mais Blanc voulait le faire. Blanc voulait, ouais. Lui, il veut pas, il a jamais manifesté une envie d'entraîner.
Ouais, je sais pas, je connais pas les tenants et les aboutissants. On en reparle, il y a des rumeurs qui viennent, comme toute rumeur qui vient aux alentours des mercato. Donc why not, ouais, voilà, le cri du cœur, enfin le choix du cœur pour moi c'est Juninho, parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de victoires, il y a plein d'esprit gagneur, d'esprit batailleur, de toujours donner le meilleur, comme il disait, pour la victoire, et c'est ça, Juninho, et c'est ça qu'on doit faire retranspirer encore une fois à l'Olympique.
Et donc tu n'allais pas au-delà de Blanc Wenger comme choix, t'avais que deux idées en tête.
Ah non, il y en a plein, mais il y a Wenger, parce que Wenger, la science comme Houillet l'avait en 2006 quand on était à Lyon, assez fort en Champions League. Après d'autres noms, moi j'aime bien Benitez. Ça me fait c'est sympa comme perspective, mais là aussi on parle de quoi? On parle d'un entraîneur qui entraîne en Angleterre aujourd'hui, il va venir en France, à quel salaire? Mais c'est pas moi de gérer ça, mais est-ce qu'il a envie de venir entraîner l'Olympique Lyonnais? S'il faut choisir un entraîneur en France c'est compliqué.
Ouais, puis surtout moi, tu nous dis Benitez, mais c'est vrai que ce qu'on reproche souvent à Lyon aujourd'hui, c'est de alors apparemment pas toi, parce que
parce qu'il aime bien Genesio.
Voilà, mais on reproche souvent à Lyon de ne pas avoir vraiment de style. Et tu sais jamais ce que va donner l'Olympique Lyonnais quand ils font une sortie. Quand tu vois Benitez, ce qu'il fait ces dernières années et ce qu'il fait avec Newcastle, alors je veux bien qu'il est pas forcément les meilleurs joueurs, mais il a des moyens quand même dans ce club. C'est assez réducteur, hein, comme football. Donc bon, on peut aimer l'homme, ce qu'il a fait.
Ça a été très bien, mais ça date. C'était dans les années 2000, ça a été un entraîneur fantastique.
C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, ça a changé quand même.
Le temps passe, hein. C'était il y a plus de 10 ans maintenant.
On remercie Michel qui nous a appelé au 32-7. Ne raccroche pas Michel, on t'offre un DVD Aquaman, Michel. Autre info également, le PSG qui a annoncé la liste des joueurs qui sont champions de France cette saison. Alors vous savez qu'en France, il y a des pays où c'est pas forcément comme ça. Il suffit d'avoir disputé une minute en championnat pour avoir été champion. Alors celui qui a le moins joué cette saison pour le Paris Saint-Germain et qui sera champion de France, c'est Kevin Riemann. Il a joué 4 minutes. Alors il y a Lo Celso dans la liste des joueurs. Il y a Timothy Weah qui est parti au Celtic. Il y a Bernet qui est parti au Red Bull Salzbourg. Donc voilà, en France, il n'y a pas de minimal pour être champion de France. Il suffit d'avoir effectué une apparition.
Bon, voilà. Bon, là, franchement, je m'en fous complètement.
Ouais, on s'en fout, on est pas mal.
Non, mais c'est surtout que tant mieux pour eux, c'est marqué sur le CV. Mais est-ce que le joueur qui a joué un match, même pas un match, il se sent champion de France? C'est ça la question.
Et celui qui a la Coupe du Monde n'a pas joué un match, est-ce qu'il est champion sans jouer?
Bah, il faut leur demander, j'ai pas été champion du monde, mais j'ai toujours joué moi dans les équipes, quoi. Mais...
Mais ils sentent ce qu'ils veulent.
Bah voilà, ils sentent comme ils ont envie de se sentir, hein, mais nous on s'en fout.
Petite info les gars, je sais pas si vous en foutez ou pas, les playoffs de Ligue 2 sont avancés d'un jour à la demande des diffuseurs, a communiqué la Ligue aujourd'hui. Le match opposant le 4e au 5e de Ligue 2 se disputera le mardi 21 mai. Le match opposant le 3e au vainqueur de ce match-là se jouera le vendredi 24 mai.
Oh mais c'est bien, au moins... Moi, j'en salive d'avance, hein. Ces barrages.
C'est sympa, les barrages. Bah, tiens, en Belgique, Pierre. Non, mais alors. Il y a beaucoup de barrages, les playoffs, etc.
Non, mais c'est quoi, le barrage, entre,
là, c'est Ligue 2.
De Ligue 2.
Là, c'est 4e, 5e, vainqueur du match face au 3e.
Moi, je trouve que c'est un barrage. Non, les barrages entre Ligue 1 et Ligue 2, oui.
Oui, mais ça, c'est après.
Le dernier match, quoi.
Mais me dites pas que le 3, le 5e, le 4e.
Ah, si. Bah, les gens qui voudront, on regardera à la télé. Jérôme, c'est bon, quoi. Personne va aller à la police, va venir chez toi pour t'obliger à regarder. C'est marrant, lui.
Mais non, mais tous les deux,
on a l'impression que t'avais le couteau sous la gorge pour regarder. T'inquiète,
critiquer la Ligue 2.
Daniel, critiquer?
Ben ouais.
Mais il a bouffé de la Ligue 2 pendant 20 ans.
Il va te dire que le barrage 5e, 4e, c'est génial.
Mais il est bête ou quoi? Mais tu fais ce que tu veux, si t'as pas envie de regarder, on va pas t'obliger.
Non, pour le coup, il a vraiment bouffé de la Ligue 2 pendant un moment, Daniel, en plus.
Ah ouais.
Mais non, mais là, je te dis pas, ça que je vais regarder. Je sais pas, c'est quel jour.
Ben, on t'a dit le 21.
Hein?
Le 21.
Non, mais c'est quel jour de semaine?
Le mardi et le vendredi, c'est. Le mardi le premier.
Le mardi, on sera en émission, évidemment qu'on va regarder.
Tiens. Alors, playoff spécialité belge quand même.
Exactement.
On y comprend que dalle d'ailleurs. Chez vous.
Voilà, on a un championnat, mais là c'est la Division 1 qui est complètement incompréhensible et encore par les étrangers, mais même par nous.
Il se fait
qu'il y a une saison régulière et puis qu'à la fin de cette saison régulière, les 6 premiers jouent un championnat entre eux.
Un playoff quoi.
Les playoff 1, comme on appelle ça. Mais leurs points sont divisés par 2.
Hein?
Donc. Ils avaient un nombre X de points après la saison régulière. Ouais. Et pour redémarrer ce mini championnat,
ils repartent avec la moitié des points.
Sont divisés par 2. Voilà, là, ils sont occupés. Pour le moment.
Et ce sera à toi de diviser les points?
Alors,
C'est pour éviter qu'il y ait,
qu'il y ait des écarts trop importants. Donc, c'est pour que la concurrence soit le plus acharnée possible. Et, selon la ligue, c'est pour plaire aux télés. Si
tu... Ah d'accord, ils font pas un playoff genre le 1 contre le 6, non. Le 2 contre.
C'est un mini championnat.
C'est un mini
championnat. C'est pas pareil. Une élimination directe.
C'est pas pareil. Non,
tu savais pas?
C'est pas Non, excuse-moi, je ne suis pas sur la le label. Je suis pas béton. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas que je suis béton, je suis paille, quoi. Là, là j'étais. Vraiment...
Ah ben non.
La PFL, les gars, le syndicat des joueurs anglais.
C'était la maison de paille des trois petits cochons.
A dévoilé l'équipe type de la saison. Alors je vous la donne. Ederson dans les buts, Alexander-Arnold, Van Dijk, Laporte, Robertson en défense. Au milieu de terrain, Pogba, Fernandinho, Bernardo Silva. Et en attaque, il y a Sterling, Aguero et Mané. Alors il n'y a pas hasard, par exemple Chelsea d'ailleurs, qui a réagi de façon très émue sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça a dû énerver les Belges, ça aussi, Pierre.
C'est presque incompréhensible en fait, parce que apparemment il a des stats d'enfer.
Ouais.
Il porte, enfin vu de chez nous, il porte le club de Chelsea à lui tout seul. Oui, c'est un peu bizarre.
Alors c'est Pogba le seul finalement qui est un peu l'intrus, c'est le seul de United. Il n'y a pas de joueur de Tottenham par exemple.
Non, mais Pogba ça pose question parce que
c'est étonnant. Il n'y a pas de joueur de Tottenham.
Non, mais c'est surtout Daniel. C'est vrai que Pogba c'est étonnant.
Pogba il a pas sa place au vu de la saison. Il devrait pas être là.
Pogba il a eu la bonne série avec l'arrivée de Solskjaer où il y a eu pas mal de victoires de suite.
Si, il y a Mané.
Si, il y a Mané.
Mais il y a pas ça là.
Où il y a pas Mané.
Il y a Mané.
Ici Mané à gauche.
Sterling, Aguero, Mané. Sterling, Aguero, Mané.
Ah putain.
Tu penses à Sané toi non?
Ouais, j'ai mal lu, j'ai lu Sané, j'étais en train de dire mais je comprends pas le mec, il a été même pas forcément.
Ah, les deux latéraux de Liverpool, c'est logique, Van Dijk, c'est logique, Laporte a une superbe saison. Fernandinho aujourd'hui, c'est plus vraiment un titulaire indiscutable.
Il y a pas Eriksen non plus. Eriksen il fait une grosse saison aussi avec Tottenham.
Non mais bon, il y en a
plein en
Angleterre. Eriksen, tu peux le mettre à la place de Pogba.
Il faut faire des choix, mais c'est vrai que c'est étonnant que Tottenham soit pas représenté dans cette équipe.
Et ben non, il y a pas hasard.
Arsenal non plus, mais là il y avait pas grand chose à
mettre.
Ouais.
Tiens, et juste pour terminer ces infos du jour, les gars.
Gratis derrière.
Je sais pas. Oh putain, il a marqué cela dit hier, mais enfin, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais petite info qui nous vient des Pays-Bas. Je sais pas si vous avez suivi ça. L'Ajax qui a annoncé le recrutement de Kiel Scherpen, alors qu'un gardien de 19 ans qui va quitter le FC Emmen, qui est supporter de Feyenoord, c'est-à-dire le grand rival de l'Ajax. Il avait d'ailleurs posté des messages, il est tout jeune, hein, sur les réseaux sociaux où il avait critiqué l'Ajax. Il y a une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux. On voit Van der Sar et Overmars qui sont dirigeants au sein du club. Et tu vois le jeune Scherpen qui est en train de recopier sur une feuille, comme à l'école, l'Ajax c'est le meilleur club des Pays-Bas. Et voilà, alors c'est comme vraiment mise en scène totale, comme s'il était à l'école primaire, en mode, donc t'as dit des conneries sur les réseaux sociaux, tu vas me recopier 100 fois, l'Ajax c'est le meilleur club des Pays-Bas, après qu'il a insulté le club sur les réseaux sociaux justement. Voilà. En termes de com, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt une idée sympa, quoi.
Ouais.
Comment étendre une polémique qui était naissante.
Quel âge il a? 19 ans.
19 ans.
Ouais. Ouais, et donc ce qu'il a fait, c'est il y a quoi? Il y a 3-4 ans.
C'était ouais, il y a pas longtemps, mais.
Ouais.
Ah, il est jeune.
C'est novateur en termes de com.
Ouais, c'est spécial, quoi.
Ouais. Ouais,
c'est marrant.
Pourquoi pas. Ouais.
Voilà. En tout cas, voilà, vous avez l'image, en tout cas. Et le tweet et la vidéo sur le compte.
T'es pas obligé de recruter des joueurs qui sont amoureux, absolument, fans du club.
Lui, en l'occurrence, pas qu'il est pas amoureux, lui, il a défoncé, lui.
S'il avait posté toute sa vie du club complètement rival, bon.
Ah, le problème, c'est qu'il a.
Tu vas pas faire l'étonner, Daniel. Ça arrive maintenant.
Oui.
Attends, souviens-toi, Mounier, à Saint-Té. Bah, ça se fait pas, tu vois. Parce qu'il avait eu des mots contre Saint-Té il y a quelques années.
Oui.
Ouais, voilà. On parle de
ça
Mounier.
Ça peut aussi gêner, quoi.
Ouais.
Non, mais je peux comprendre que ça gêne. Mais après, les jeunes aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils se font surprendre. C'est pas.
Même jeunes, ils doivent comprendre que c'est des clients potentiels.
Ouais, ben bah, va le dire.
Ah oui.
Pas le dire à certains.
La transition est trouvée, puisque tu veux parler aux Ailes, Pierre Maez, dans quelques instants, on va aborder ton livre. Le business des droits TV, enquête sur une bulle explosive, on va évoquer les droits télé dans quelques instants. Tiens, juste un petit chiffre là, pour mettre l'eau à la bouche, ça pèse combien les droits télé au niveau mondial à peu près?
50 milliards sur 2018, de dollars.
Pas dégueu.
De droits pour le foot?
Non, pour l'entièreté du sport, dans le monde entier.
Attends, je note le chiffre. 50 milliards
de dollars.
Pas mal, hein?
Ah, quand même.
Voilà. Tout de suite, alors. Avec
mais
Daniel
ça ne parle pas, les milliards.
Jérôme Rotten.
Ouais,
millions, je suis un genre bizarre.
50 000 millions, alors.
Tu vois ce que ça peut faire, mais milliards, d'un coup,
t'es perdu,
largué,
là.
Quoi. T'es largué.
Un peu largué. Bon, ouais. On fait les comptes avec Pierre.
Ah, mais je suis là, t'en fais pas, je serai là pour.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Daniel Riolo, de Jérôme Rotten et de Pierre Maez, qui nous est venu de Belgique, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Pierre Maez qui a écrit ce livre, Le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive. C'est aux éditions FYP. Alors on va évoquer justement le business des droits TV du foot avec toi, Pierre. Alors présente-toi déjà, ancien cadre de chez Canal+.
Exactement. J'ai participé à la première aventure en fait en dehors de France de Canal+, c'est-à-dire en Belgique francophone. Donc en 1989, ça a été vraiment le... En fait, les dirigeants de Canal+, en France, se sont dit « On va essayer dans un petit pays extrêmement compliqué, si ça marche là, ça marchera partout ailleurs. »
Et ça a marché.
Ils sont venus en Belgique francophone et ça a marché.
Voilà. Et aujourd'hui, t'es ?
Et aujourd'hui, moi, je suis consultant indépendant dans les droits sportifs. Et donc, j'aide les ligues à vendre, j'aide des acheteurs à acheter ou j'aide des intermédiaires à intermédier.
Alors, comment t'expliques que les droits TV passionnent autant, finalement ?
C'est une très bonne question. En fait, je pense que il passionne parce que d'abord il y a du théâtre. Si t'as lu le livre, t'as bien vu qu'il y a des personnages. Il y a du drame. Et puis,
je veux dire dans la ce qu'on peut appeler la guerre pour l'obtention d'eux.
Précisément.
Ça fait un, précisément. Oui, parce que ça fait un peu film un peu de business, quoi.
Exactement. Et puis il y a du bluff.
Il y a des personnages aussi, vraiment.
Il y a des personnages.
Oui,
exactement.
Oui, ça fait un peu thriller. Comment on appelle ça? Un thriller financier, quoi, on pourrait dire.
Précisément. Voilà, ouais. Ça, c'est une raison pour laquelle ça intéresse les gens. L'autre raison, c'est que ça touche les gens directement au portefeuille.
Le prix des abonnements, quoi.
Voilà. Donc eux, ils savent bien que si un changement dans l'attribution des droits de la compétition qu'ils regardent, ils vont devoir changer de fournisseur de services, changer de fournisseur d'internet. Ça va jusque là.
Alors il y a aussi autre chose que t'expliques dans le bouquin. Si ça passionne aussi autant les gens, c'est que ça a une implication directe sur les budgets des clubs, puisque c'est la première source de recettes des clubs, et donc forcément sur le mercato, qui est ça, est le truc qui passionne absolument tout le monde.
Tu veux
aussi
dire quand le supporter voit que les droits télé ont explosé, il se dit il y aura plus d'argent dans mon club.
Voilà.
Disons que c'est un peu sa seule consolation. Il se dit d'une part, effectivement, je vais sans doute devoir payer mes abonnements plus chers pour regarder le foot à la télé. D'autre part, effectivement, s'il est supporter, il peut se dire, tiens, mon club, il va avoir plus. Donc, il va mieux prester à la fois en championnat ou en Coupe d'Europe.
Mais à quel moment est-ce qu'on peut noter, si on s'en tient chez nous à la France, sur les 15 dernières années, de quelle façon le prix de l'abonnement a vraiment augmenté? Qu'il se soit déplacé. Toi, quand t'avais Canal, et puis après il y a eu Bon, au début, il y a eu avec TPS, après, ouais, il y a eu avec Bein. Mais en fait, ça se partageait. Mais la somme, elle était plutôt équivalente. Il y a eu un changement là, effectivement, avec les droits de la Ligue des Champions, parce que comme c'était chez nous, qu'il y avait la Ligue 1, enfin, ouais, il y avait peut-être une accumulation d'abonnements à prendre, qui allait, j'allais dire, qui a laissé paraître une augmentation, mais non, elle était réelle. Ouais. Mais après, il y a toujours après cette augmentation, derrière, il y a souvent un rassemblement où on essaye au sein d'un opérateur de faire en sorte que on puisse avoir avec la même box les et souvent on n'informe pas bien le consommateur là-dessus. Mais est-ce qu'au final il y a une vraie augmentation?
Alors
du tarif global, par exemple, si pour voir le foot.
Si on prend la France. Tout tourne un peu autour de Canal, finalement, en France. Hein.
Canal, c'est l'opérateur historique.
Donc, Canal, au départ, est un monopole, et Canal demande beaucoup d'argent. C'est cher de s'abonner à Canal.
Ah oui ?
TPS arrive, c'est la concurrence, Canal essaye d'assécher complètement TPS, et en fait, arrive...
Non, TPS gagne un appel d'offres, en 2005, et se fait fourrer littéralement.
Voilà.
Par les dirigeants et là en matière de thriller financier, je me souviens, j'y étais.
Toi,
en
toi
plus.
Y étais, ouais, à l'époque. Ouais.
C'était aberrant. Ouais, là, ouais. Tu gagnes et puis on te dit non, parce que donc Thierry et certains dirigeants ont dit non, on va rester avec l'opérateur historique. Bah, pourtant, on va donner plus. Oui, mais non, mais c'est pas grave.
Ça se passe pas comme ça.
Ouais. Après, Canal.
Allez.
Et donc Canal a eu la peau de TPS, on va dire.
Bah, absorbé.
Final, absorbé, ouais. Exactement. Mmh. Et s'est retrouvé sans concurrence. Mais depuis 2012, pour Canal, c'est la catastrophe.
Ouais.
2012, c'est Bein. 2015, c'est SFR Altice.
Les fameux telcos dont tu parles, les télécommunications.
Oui, exactement. Et maintenant, c'est 2018, c'est Mediapro. Mmh. Et donc, effectivement, oui, au final...
Canal déjà répondre... sauvé en 2012 par le gouvernement, par intervention de François Hollande, qui déjà sauve Canal à ce moment-là. Déjà
fait. Mmh. Et alors, pour répondre directement à ta question, est-ce que les prix pour le consommateur ont augmenté? Évidemment.
Ouais.
Évidemment. Enfin, si tu lis à gauche, à droite, le Mediapro a déjà annoncé qu'il allait faire une chaîne... Et que ça allait coûter 25 euros par mois.
Non, ça, Mediapro, c'est pas encore effectif.
Je parle donc.
J'essaie de me souvenir quand l'abonnement Canal, ça te servait pour voir aussi bien. Bah, t'avais la Ligue des Champions, t'avais la Ligue 1.
Aujourd'hui, c'est la multiplication qui fait que c'est cher.
Mais c'est ça. C'est pour savoir exactement. Mais est-ce qu'au bout d'un moment,
au départ, Canal,
mais que ça augmente avec le coût de la vie et tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment un moment un boom pour la poche du consommateur?
Bah là, la preuve. Quand on a 3, 4.
Non, maintenant, je parle au fil du temps. Si on prend 2012, quand ils arrivent, ils font un tarif qui est pas cher.
Pas cher.
Ouais, c'est 11 euros, je crois. Ouais, c'est 11 euros. C'est
10 ou 11 balles. Et puis ils achètent à la Ligue des Champions et tout. Mmh. Ce qui fait que quand tu faisais les deux avec Canal qui baissaient, on n'avait pas pris un choc à ce moment-là.
Mais d'ailleurs, dans le livre, tu l'expliques, c'est cyclique finalement. Il y a des nouveaux. Alors, les telcos sont arrivés. Après, les intermédiaires ont disparu. Finalement, ils commencent à revenir également. Et ça coûte cher, forcément, quand il y a un intermédiaire aussi.
Exactement. De toute façon, je dirais, ce qu'on voit dans ce business, en dehors de l'impact sur le consommateur, c'est les risques insensés que prennent les acteurs. En fait, la Ligue vend ses droits, et puis quelqu'un vient, les achète et mise, en fait, en disant « Ouais, je paye 700 millions, et je vais les récupérer auprès de mes abonnés. » C'est un risque insensé.
Énorme. Ouais. Bah, normalement, il fait le calcul avant. Et il se dit combien d'abonnements je vais pouvoir vendre, tout
d'accord,
ça.
D'accord, Daniel. Mais un calcul, ça reste quand même comme ça. Hein,
ce sont des estimations. Comme c'est du business, j'espère que l'estimation elle est quand même plutôt
évidemment,
bien faite.
Alors, parlons de Mediapro justement, parce que c'est intéressant. Alors, toi, tu fais notamment état des GAFA, on va y revenir dans quelques instants. Mais tu parles notamment des nouveaux investisseurs dans le monde du foot, pas que d'ailleurs dans les droits télé, ce sont les investisseurs chinois. Alors, il y a un truc qui est un peu inquiétant. Mediapro a été racheté par une société chinoise. Et toi, t'expliques dans le livre, tu dis, les Chinois finalement, ils ont la fièvre acheteuse. Le problème, c'est qu'ils ont la fièvre vendeuse aussi. C'est-à-dire, ils revendent aussi vite qu'ils ont acheté. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser à un scénario où Mediapro ne sortirait pas sa fameuse chaîne de télévision et vendrait à revendre les droits d'ici à ce que ces droits soient effectifs, finalement?
Je pense que c'est un risque certain. C'est sûr. En fait, j'explique ça dans le livre de manière assez complète. Apparemment, c'est assez typique chez les Chinois. On leur indique un secteur... où il est bon d'investir selon le président, ils y courent tous, et puis après, où on s'aperçoit que, oh mais c'est risqué, oh mais c'est pas si bien, et le président, le gouvernement dit stop, et ils s'en vont tous. Alors le meilleur exemple, c'est MPN Silva. MPN Silva, je pense que vous connaissez pas bien en France. Nous en Belgique, on connaît très bien parce qu'ils sont venus acheter les droits de la Pro League justement pour un contrat de 6 ans à 450 millions d'euros, quand même pour un mini championnat comme la Belgique, même avec des play-offs 1 et des points divisés.
Même sur divise des points, ouais.
Voilà, même ça reste cher. Et MPN Silva avait des actionnaires chinois qui ont arrêté.
Un portugais, hein, Silva.
Non, il est italien, je crois.
Ce sont des Italiens.
Ouais. Là, c'est...
Il a arrêté au bout de combien de temps?
Alors, en fait, ils ont vendu, ces trois actionnaires italiens qui ont vendu leur boîte, MPN Silva, à des actionnaires chinois en 2016. Et, en 2018, ils ont fait stop.
Ah ouais.
Ils ont plus mis un franc, un euro. MPN Silva est en faillite aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui a permis à Mediapro, d'être très agressif en dehors de l'Espagne? D'abord en Italie.
Ils se sont fait recaler d'ailleurs.
Où ils se sont fait éjecter.
En Italie, ils se font recaler pourquoi? Pour une caution bancaire.
Il n'y a pas de garantie.
Une caution bancaire qui ne tenait pas?
Exactement, parce qu'ils n'ont pas offert une garantie bancaire que la Ligue italienne leur a demandé.
Et mais il paraît que dans l'appel d'offres français, la garantie bancaire n'a pas été demandée de la même façon. Ce qui est source d'inquiétude.
Selon moi, la garantie bancaire n'a pas été du tout demandée. Du tout.
Ah, j'osais pas dire du tout, parce que
Mais tu veux dire quoi, qu'il navigue à vue, là,
sa fin?
C'est-à-dire que, selon moi, enfin, ce que j'ai pu lire dans la presse.
Pour la Ligue, ce serait catastrophique.
La Ligue a une garantie de l'actionnaire chinois. C'est beau.
Ton bouquin.
Hein. Oui, c'est beau.
Alors, en fait, il est derrière nous, hein, sur RMC Sport News. D'ailleurs, si vous voulez réagir, vous nous appelez 32-16.
Parce que là, tu vas nous inquiéter.
La Ligue dit texto, nous n'avons pas une garantie bancaire parce que on ne demande pas une garantie bancaire de ce montant-là, aucune banque ne donne ça. C'est peut-être vrai, j'en sais rien. Alors, en tout cas, la Ligue italienne, elle l'avait demandé. Et la Ligue dit, nous avons une garantie de l'actionnaire chinois de Mediapro. Ok. Oui.
Mais une garantie comment?
Une garantie, qui dit, si Mediapro ne paye pas,
je vais payer.
Moi, non, si Mediapro...
si ça se passe pas bien.
J'ai envoyé un mail.
Si ça se passe pas bien.
Si Mediapro ne paye pas, moi, actionnaire chinois de Mediapro, je paierai. Ça vaut ce que ça vaut.
Ouais. Bah, ça vaut.
Attends, appelle ton ami, savoir.
Bah, c'est lui d'ailleurs qui est cité, sur cette histoire de garantie. Tu le cites dans le livre aussi,
Didier
Kiyo. Ah oui. Bah, c'est lui qui a pilotait l'appel.
Donc, je pense qu'il a préféré, prendre le risque de pas demander une garantie pour avoir son
montant, un montant élevé. D'accord.
Et donc, je reviens à ce que je disais. Qu'est-ce qui a permis à Mediapro d'être extrêmement agressif sur la Ligue italienne, puis directement après s'être fait refouler de la Ligue italienne sur la Ligue française? Bah, c'est l'argent chinois. Sinon, ça fait longtemps qu'il serait venu. Hein. En fait, le timing est assez incroyable.
Donc après les Qataris, c'est les Chinois qui mettent du blé dans le championnat français.
Mais ils avaient acheté, d'ailleurs, mais globalement,
ils avaient acheté
globalement.
En Italie au départ.
Je reviens juste sur Mediapro parce que le timing est assez incroyable. Février 2018, les Chinois prennent 65% du capital, enfin la majorité du capital. Ils font leur offre en Italie, genre quelques semaines après, et boum, juste après, la Ligue française.
La Ligue.
C'est-à-dire quoi, que l'argent qu'ils n'avaient pas foutu mettre sur la Serie A, ils l'ont mis sur la Ligue 1,
c'était
ça?
Combien la Serie A?
C'était autour du milliard aussi.
C'était pas un milliard, ouais. D'accord. Et Roulès, c'est un homme de paille ou l'Espagnol qui...
Ah non, pas du tout, je pense pas. Non, c'est un garçon qui
sait
où il va.
Qui lui aussi est un sacré personnage d'ailleurs, hein, t'en parles un peu dans le livre.
Le personnage, j'en fais une description la plus complète possible dans le livre, oui, qui c'est un garçon qui se dit trotskiste.
Oui, comme tous les anciens trotskistes, quand le blé commence à arriver, on se dit que finalement c'est bien le blé aussi.
Non mais il dit qu'il l'a encore.
Non mais lui dit qu'en fait on peut être trotskiste
riche
aussi. C'est pas incompatible, voilà, c'est ce qu'il explique.
Qu'il a lu Karl Marx et qu'il est marqué nulle part qu'on peut pas être richissime et trotskiste à la fois. Enfin bon, peu importe. Et donc lui, c'est...
Ouais.
Non, lui, c'est...
De toute façon, moi, je pars du principe, le trotskiste est toujours raison, parce qu'eux savent, et eux sont les intellos. Donc c'est
lui,
c'est la base. Hein,
tu me demandes s'il est un homme de paille, pas du tout. Lui, il a juste trouvé un bon filon.
Non, quand je disais homme de paille, c'est que au final, d'un point de vue financier, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui a la caisse, en fait.
C'est pas lui qui a la caisse, mais je suis pas sûr que ce soit pas lui qui décide.
D'accord.
Parce que je ne pense pas que les Chinois ont les connaissances que lui a.
On lui a confié un poste important.
Voilà.
D'accord.
Okay. Un poste et surtout un budget important.
Alors si on reprend un peu le business des droits télé, tu dis beaucoup dans le livre que au final on se demande si c'est réellement rentable, mais pourtant tout le monde y va. C'est rentable pour une chaîne ou pas? Canal a construit toute son image là-dessus. Au final, ça a été plus que rentable pour eux.
Ça a été dur au départ quand même.
Canal, c'était c'est, pendant des années, on a dit c'est le cul et le foot.
Excellent. En effet, et comme tu dis très bien, au départ, Canal c'était une
catastrophe. Ils sont passés à ça du dépôt de bilan, tu le rappelles.
Exactement. Par contre, après, Canal Plus fait partie des success stories de la mise en péage en Europe avec Sky. Ils ont en commun d'être très chers tous les deux, mais effectivement d'avoir un monopole et de s'être appuyé largement sur le foot, encore plus Sky avec la Première Ligue bien sûr en Angleterre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui change? Tu dis tout le monde y va. Je pense qu'on va parler des GAFA tout à l'heure, qui sont aujourd'hui.
Ouais, on n'arrête pas de dire qu'ils vont finir par y aller aussi, que ça les intéresse, que ceux vont faire la révolution là-dedans, là, Amazon, Facebook, tout ça. Là.
Voilà, donc qui sont aujourd'hui plutôt un mirage. Donc en fait, eux n'y vont pas aujourd'hui. On peut résumer en disant ça. Pour le moment, ils n'y vont pas.
Au final, ils veulent pas y aller.
Non. Ils n'y vont pas.
D'accord.
Quand tu dis tout le monde y va, ben là il y a déjà
pas tant que ça finalement.
Pardon ?
Pas tant que ça finalement.
Alors ici en France, on a une belle illustration puisqu'on a eu l'APTV, la chaîne APH dominante, puis on a eu le concurrent TPS Publine, deux autres chaînes APH, puis le telco agressif.
C'est nous.
Exactement. Il n'y en a pas eu beaucoup des telcos aussi agressifs que Altice.
Après, on est sympa aussi. Hein, c'est pas...
Il y a eu... Ça se voit pas.
Bon, je te le dis tout de suite, c'est pas notre oseille à nous. Hein, mais...
C'est sûr. et donc, l'autre telco très agressif, ça a été BT.
BT.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, vos dirigeants de Altice disent clairement que BT, c'est leur exemple.
Ouais.
Enfin, c'était leur exemple, parce qu'aujourd'hui, BT, comme Altice,
ils ont freiné.
Ouais. Ouais. BT freine très sérieusement.
Et alors, c'est quoi la stratégie de foncer puis de freiner?
Alors, je pense que ça dépend des cas individuels. Je pense que ce qui a fait freiner Altice ici, c'est une dégringolade en bourse et qu'il n'était plus question d'investir dans des secteurs aussi risqués. Chez BT, même chose, sauf que la dégringolade en bourse n'a pas été aussi marquée, mais par exemple chez BT, ils ont restructuré et ils virent 13 000 personnes.
Oui.
C'est difficile d'aller dépenser des millions, si pas des milliards, sur les droits TV alors que tu vires, que tu mets 13 000 personnes.
Est-ce que le foot, ça coûte plus cher ailleurs qu'en France? Aujourd'hui, le pack foot en France, c'est quoi avec les regroupements qu'il y a eu une fois que a été digérée la Ligue des Champions chez nous? C'est qu'à 39,90, on ne pouvait avoir tout le foot, c'est ça?
Avant, tu veux dire?
Préfère. Non, là maintenant.
Là. Bah, tu comptes nous, t'en as pour ouais.
Non, mais t'avais. Il y a eu
y a
proposé
une offre,
tout
ouais.
Le foot,
ouais, ouais,
Canal,
une offre.
Et
ouais, ouais.
Ligue des Champions pour 30
ouais,
balles.
Il y en avait. Il y avait
peut-être
une offre.
Peut-être qu'il fallait avoir la boxe SFR pour avoir ça. Enfin, on peut l'avoir à ce prix-là. Donc, c'est quoi le prix du foot en Angleterre? C'est plus cher? En Italie, c'est plus cher?
C'est une bonne question. En Angleterre, c'est certainement plus cher. Si tu cumules.
En Angleterre, je crois qu'on est sur les 60 balles pour avoir tout le foot.
Ouais, plutôt sur les 60 livres, je dirais. Si tu cumules Sky et BT, je pense que tu es à 60 livres au minimum. En Italie, je peux pas te dire, mais c'est beaucoup moins cher. Ici en France,
je crois pas. Hein.
Alors justement, petit teasing, on va revenir dans quelques instants. Faut qu'on fasse une pause. On va notamment parler des consommateurs et on vous attend au 32-16 pour y parler. Parce que toi, les consommateurs, tu les appelles les consommateurs plus loin justement, parce que tu dis finalement les gars, personne vous oblige à payer. Soyez pas les pigeons. Et tu les incites même quelque part au piratage finalement, les consommateurs. On va l'évoquer dans quelques instants justement. On rappelle le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive. Et puis tu vas nous répondre à cette question aussi. Pourquoi la bulle elle est explosive? Est-ce qu'elle va vraiment exploser? Ça fait des années qu'on nous dit ça. Et finalement on a l'impression que ça viendra jamais, Pierre Maïs. Voilà, la réponse dans quelques instants. On vous attend au 32-16 avec Daniel Riolo et Jérôme Rotten également. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné de Jérôme Rotten, de Daniel Riolo et de Pierre Maïs, le business des droits TV du foot enquête sur une bulle explosive. Voilà, c'était aux éditions FIP. Je sais pas comment on dit FIP ou FYP alors.
Il peut choisir.
Alors pourquoi
non,
bulle explosive? Parce que quand tu dis bulle explosive, ça fout les jetons, ça veut dire que ça peut exploser. Et qu'est-ce qui se passe après alors?
Alors je vais nuancer justement. On parle de mon éditeur. Le enquête sur une bulle explosive, c'est mon éditeur.
Parce c'est souvent comme ça, ils aiment bien une phrase qui accroche un peu au départ.
Voilà.
Ouais. Donc ça va pas exploser.
Un teaser. Pas du tout. c'est pas ça que je veux dire. En fait, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de vraiment de décrire l'environnement de manière assez complète. J'espère que j'y suis arrivé en tout cas. Et en parlant de l'histoire, en parlant des acteurs, comment ça se passe, etc. Et en fait, mon objectif, c'est que le lecteur se fasse une idée lui-même. Est-ce que s'il y a une bulle ou pas? Est-ce que on est dans l'irrationnel? Est-ce que voilà? Après, j'ai mon opinion et je pense aussi que au moins 95% des gens qui vont le lire vont conclure qu'il y a une bulle. Je pense. C'est mon avis. Moi, je pense aussi.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est une bulle et tout. Ok. Alors, le mec qui veut regarder le foot, il regarde le foot. S'il a le blé pour se payer, il va se le payer.
Alors,
qu'est-ce qui peut se passer si c'est dangereux? Pourquoi?
Tu me demandes si elle va exploser. Alors, pour moi, il y a deux inconnus. C'est quelle va être l'ampleur. On ne va pas parler de l'explosion, de la correction. Il va y avoir une correction. Quelle va être cette ampleur? Et quand ça va se passer? Alors, à la deuxième, je peux déjà te répondre un peu. C'est déjà parti. Les droits de la Première Ligue sont partis en février 2018 pour un montant de 10% inférieur au montant précédent. Et ça faisait suite à deux augmentations successives de 70%. Plus 70% en 2012.
Ah, tu veux dire qu'on est parti très haut, que maintenant ça ne peut que baisser, ça va plus augmenter, tu dis?
En tout cas, ce que je constate, c'est que un championnat qui est considéré comme étant, au niveau européen, le baromètre...
Un premium, quoi.
Premium, mais surtout, tu vois, le baromètre de la santé de ce business, eh ben, il a fait moins 10%. Et ce qui est encore plus frappant, ils ont vendu donc, en février 2018, les droits pour les saisons 2019 à 2022. Et ils ont acté une perte de moins 10%. Les clubs auraient très bien pu dire, ok, à ce prix-là, on les donne pas les droits. On va attendre 6 mois que la concurrence se remette et on va les remettre sur le marché.
Ils ont accepté.
Ils ont accepté même si c'était à la baisse. Ouais.
C'est quand même.
Estimé que c'est. De toute façon, ils sont tellement gavés, ils voient plus au bout d'un moment.
Tiens, on va écouter parce qu'on faisait référence.
Tiens, Simonet m'a répondu. Ah, en Italie, c'est entre 60 et 70 balles.
Au Portugal,
pour
c'est
avoir
pareil.
Tout le foot au total.
Au Portugal, c'est pareil.
J'ai l'impression que c'est peut-être un peu partout pareil aujourd'hui les prix en Europe. Hein. Il y a
au
une
Portugal,
sorte d'uniformité.
Ouais, au Portugal, c'est très très cher.
C'est cher. Hein.
Et d'ailleurs, on va y revenir. On sera avec Jean-Pascal.
La Ligue des Champions.
Alors en fait, parce que tu as Eleven Sports qui a été lancé au Portugal, qui est le nouvel acteur.
Vous avez un championnat à 16 clubs, dis donc, quelle arnaque.
Non, on en a 18 là maintenant. Ah, vraiment déjà, on est repassé à 18. T'as Sport TV, et puis surtout au Portugal, c'est le dernier pays d'Europe où les droits sont individualisés.
Ah oui,
il
n'y
a pas de mutualisation.
Vrai, oui,
donc le
vrai.
Benfica avait sa chaîne, alors maintenant ils ont revendu leurs droits à domicile également, mais c'est un vrai bordel là-bas aussi.
Cher,
ça coûte très cher au final. Ouais, c'est surtout que le SMIC est à 700 balles.
Pour 4 matchs dans l'année.
Ouais, enfin, c'est vrai que ça fait. Bah il y a les coupes d'Europe quand même. Puis la Ligue 1, mais ils aiment pas trop ça, je pense. Alors, on va écouter Jacques-Henri Hérault. Ouais, bah tiens, lui, il l'aime bien. Alors, Jacques-Henri Hérault, aujourd'hui...
Ils ont plus de matchs que nous, hein, t'inquiète.
Oui, ça, c'est pas con.
Mais là, ils sont... Ah non, ils ont plus, là.
Bah, ils ont fait les quarts de Ligue des Champions, quand même, je crois.
C'est vrai.
Attends,
ça
ah, ouais. Jacques-Henri Hérault, qui était convié aujourd'hui au premier sommet start-up ex-Marseille, il s'est exprimé sur le possible rôle à venir des GAFA, puisque tu faisais référence il y a quelques instants. Et après, on prendra ton avis, Pierre Maes, parce que t'es pas d'accord, toi, avec la théorie de Jacques-Henri Hérault sur la question. On l'écoute, le président de l'OM.
Dans le monde des médias, les modèles économiques, c'est pas à vous que je vais le dire, sont en train de changer. Et pour le football, on reste sur les modèles du passé. Les modèles du passé, c'est de vendre les droits de diffusion d'un championnat localement. On parle même de droits domestiques. Alors, ça va continuer comme ça probablement pendant encore quelques années. Mais quand vous avez un Amazon, qui est devenu l'entreprise qu'on connaît tous, qui a, par définition, une empreinte mondiale, qui offre ses contenus à ses abonnés, à ses clients prime, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit pour le modèle économique d'Amazon. Je pense qu'on y viendra. D'ailleurs, on y vient déjà, puisque Facebook ou Twitter ont fait d'ores et déjà quelques incursions en matière d'achat de droits sportifs. Et donc, je pense que dans les 10 ans qui viennent, ce sont des acteurs qui se mobiliseront de plus en plus.
Et alors toi, Pierre Maes, dans le livre, t'es pas d'accord avec ça, parce que tu dis, toi, les GAFA, donc c'est Amazon, Google, Apple, Facebook, etc., tu dis, parce que c'est vrai que finalement, c'est peanuts pour eux, les droits télé, les 50 milliards dont tu parlais, si on regarde leur budget, finalement, toi, tu dis, s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient déjà fait.
C'est clair, je constate qu'aujourd'hui, ils se mouillent pas. Alors, je constate aussi que Hérault, il se mouille pas trop, il parle de 10 ans, bon, ok. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que, en fait... les GAFA, on va les appeler comme ça, ont fait fantasmer les ligues et les clubs, c'est clair.
Oui, ça, tout dit, le monde attendait.
Ils se sont dit, on a eu les PTV, on a eu les telcos, voilà les suivants. Ils sont encore plus riches que les telcos, qui étaient plus riches que les chaînes à péage. Quel monde merveilleux. Et donc, on a eu... Je raconte ça par le détail dans le livre, les intoxications des ligues qui disent ouais, on a vu Amazon, ils sont super intéressés, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, rien. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, il y a pas rien. Amazon, Hero le cite comme étant un acteur global. Bon, Amazon pour le moment fait des tests en Angleterre. Point. Ils ont acheté du tennis, ils ont acheté les quelques matchs du Boxing Day à partir de 2019 et ils testent visiblement. Alors, c'est intéressant de voir ça GAFA par GAFA. Donc Amazon, je viens d'en parler, ils testent en Angleterre. Facebook, alors Facebook, ils ont fait fantasmer parce qu'en 2015, je pense, 2017, pardon, ils ont fait une énorme offre pour les droits du cricket en Inde. 600 millions pour les droits digitaux, enfin, ah ouais. Tout le monde, ah ouh, ils les ont pas eu les droits. Après, depuis lors, on constate...
En Inde, c'est 700 millions pour voir le cricket.
En fait, ils voulaient augmenter le nombre d'abonnés à Facebook, quoi. C'était une stratégie.
Alors, je vais y revenir. Si tu veux, après, ça n'a plus, ils n'ont plus jamais fait d'offres de cette dimension. Ils font des partenariats qui leur coûtent pas grand chose. Ils achètent des droits. Bon, ils achetaient la Liga, par exemple, la Ligue espagnole pour l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que leur pénétration. Ils ont peu d'utilisateurs là, donc ils se disent en proposant un contenu exclusif, peut-être qu'on aura plus d'utilisateurs. Ils ont embauché l'ex-patron d'Eurosport, Peter Hutton. Tout le monde s'est dit là ils vont dégainer, ils vont y aller. Y a rien qui change. Extrêmement prudent. En plus, il faut savoir que Facebook, comme Google, c'est pas des gens qui achètent le contenu, hein. Ils prennent le contenu.
Souvent gratuit d'ailleurs.
Ouais. Exactement.
Ok, donc tu dis pas tout de suite quoi, si ça se fait de toute façon.
Donc, citons YouTube, qu'est-ce que YouTube fait? Il prend le contenu des autres et puis ils vendent la pub autour. Ils achètent rien. Hein.
Pour finir, on va accueillir un consommateur justement, on va l'écrire en un seul mot, Jean-Pascal, qui est prof de philo d'ailleurs.
Comme ça, pour finir, non, j'ai une question méga importante à poser.
Et ben on va la poser. On va écouter Jean-Pascal d'abord.
Non, salut Jean-Pascal, c'est sûr.
Oui.
Salut JP.
Allô.
Attends, ouais,
oui, bonjour.
Ça va?
Je lui donne sa chance.
Je suis pas prof de philo, je suis prof de judo. Hein.
Ah putain, moi écrit philo, c'est pareil tout ça, le judo et la philosophie.
On sait bien, que les sportifs, il faut pas être prof de philo.
Alors dis-nous Jean-Pascal.
Alors moi, j'écoutais vos discussions et moi depuis longtemps, je me dis qu'il faudrait qu'on puisse donner aux gens la possibilité d'accès au foot et à la Ligue des Champions notamment. Et pour ça, pourquoi pas demander la fiche d'imposition de chaque personne et que chacun ait un barème selon ses revenus.
C'est-à-dire quoi, pour payer son abonnement?
Ce qui permettrait à chaque fois de gagner de l'argent. Les plus riches paieraient plus et les plus modestes paieraient moins. Mais tout le monde aurait accès au foot parce que c'est quand même compliqué aujourd'hui pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'être privés. Déjà, ils n'ont pratiquement pas grand-chose dans leur vie. En plus, on les prive de foot. On les prive de la Ligue des Champions, on les prive de la Coupe du Monde.
On peut faire pareil avec le pot de confiture au supermarché aussi, hein.
Ben oui, mais ça aussi, moi je serais pour aussi.
Ouais, ou chez le boucher, moi je paye le steak 5 balles et puis Nico il le paye 3 balles ou tout comme ça.
Et Jérôme 200.
Ouais, on peut aussi.
T'es vraiment prof de philo en fait.
C'est toute l'économie toi que tu veux bouleverser quoi. Là c'est du délire complet là. T'avais jamais entendu celle-là.
Prof de judo mais voilà, philosophe dans la.
C'est tout quoi.
Ah ouais, c'est vraiment.
Tu vas chez GoSport acheter une paire de pompes, toi tu gagnes plus, tu la payes plus cher que moi quoi. Ok,
travailler plus pour payer plus.
Ouais.
Qu'est-ce que tu voulais dire toi, Daniel?
J'ai rarement entendu ce genre d'idée. Ouais. On est bien d'accord que le club de foot, c'est une entrée majeure dans son fonctionnement, le droit du foot, dans son budget. Il veut toujours plus. Il veut augmenter. Ses investisseurs, ils veulent augmenter leur revenus. Aujourd'hui, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui fait le même job que toi et négocie les droits télé, tout ça, il dit, comme tu ne vas plus pouvoir augmenter les droits télé pour une compétition comme la Ligue 1, on a touché un plafond pour la Ligue des Champions, les clubs, à un moment, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont dire, on peut plus les augmenter par ce biais-là, il faut qu'on change les compétitions. C'est le seul moyen d'augmenter ces revenus-là. D'où la réflexion, j'en parle quasiment tous les soirs, parce que je pense que c'est le sujet vraiment actuel du moment, c'est une obsession pour beaucoup de clubs. Le nouveau format de la Ligue des Champions entre dans cette réflexion-là. Les mecs disent, on a tiré le maximum d'oseille qu'on pouvait tirer de la formule actuelle. On rappelle quand même que la formule actuelle date de 92, elle avait déjà été créée pour ça. Plus de matchs, qu'on en a tenté une autre qui a pas fonctionné avec les deux poules. Là, les mecs se disent, bon, bah, dans notre budget, l'argent, ça rentre, c'est bien et tout, mais si on veut encore plus, le seul moyen, c'est le nouveau format de compète. On est d'accord? C'est ce que se disent beaucoup.
Tu réponds dans quelques instants, faut qu'on file, Pierre, mais tu restes avec nous encore quelques minutes, Pierre, on revient dans quelques instants, on rappelle ton livre, hein, Le business des droits TV du foot, enquête sur une bulle explosive,
parce que t'en parles.
Oui, oui, on continue après un petit peu derrière également, parce que t'en parles également de ça aussi, hein, de la réforme des compétitions européennes, qui a un impact, bien entendu, sur les droits
TV.
Pour
augmenter les droits, l'oseille aujourd'hui.
L'after revient dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, l'After Foot.